merci d'être venu pour rencontrer Rebecca Krickeldorf. Ganz herzliche Grüße heute Abend hier. Mathieu Berthollet qui va nous parler de Rebecca Krickeldorf, de ses traductions, et qui va débattre avec nous. Et avec Nicole Collin, professeur en études germaniques à Aix-en-Provence et grand spécialiste du théâtre germanophone en France, qui a écrit un gros pavé sur ce théâtre et qui va débattre avec nous sur des questions différentes et des questions diverses. On parlera de votre théâtre, wir werden über Ihr Theater sprechen, aber wir wollten auch über Komödien sprechen. Mm-hmm. On s'est mis d'accord avant ce débat de parler de comédie, du rôle des comédies en France et en Allemagne, über die Rolle der Komödie in Deutschland und in Frankreich, über die Wahrnehmung, sur la perception, sur la réception dans les deux pays. Puisque vous êtes, et peut-être ça serait déjà ma première question, das wäre vielleicht meine erste Frage, verstehen Sie sich als Komödienautorin? Est-ce que vous-même vous décrivez comme auteur, dramaturge de comédie? Je rappelle, excusez-moi, que vous avez écrit, si je ne me trompe pas, ce que je trouvais sur Internet, vous avez écrit 22 pièces. Sie haben nach meiner Meinung 22 Stücke bis jetzt geschrieben.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, weil ich nicht genau weiß, welche Texte ich unter die Stücke subsumieren soll, weil da auch einige Bearbeitungen dabei sind, einige Minidramen. Also ich habe gar nicht, also kann sein.
Donc, à vrai dire, je me rappelle plus exactement du nombre des pièces que j'ai écrites, parce qu'il y avait des textes qu'on a appelés pièces, mais qu'on pourrait aussi appeler différemment, qu'on compte donc parmi ces 22 pièces que j'aurais dû écrire et publier.
Aber zu Ihrer Frage, ja, das ist so eine Sache mit dem Komödienautor. Ich habe mich, also ich war nicht der Erste, der mich so bezeichnet hat. Also das war eher so eine Spiegelung von außen, die auch erst, also die gar nicht von Anfang an da war. Ich weiß noch, als ich anfing zu schreiben nach den ersten Stücken, galt ich so eher als die Märchen- und die Mythentante, weil ich sehr viel gearbeitet habe mit Märchenstoffen und auch mit teilweise popkulturellen Mythen. Also mein zweites Stück war ein Vampirstück. Also war sofort das, sage ich jetzt mal so, Label oder die Schublade da, Märchen und Mythen. Und das mit der Komödiantin, das kam erst dann später. Aber ich würde mich darauf nicht so, auf diese einengende Bezeichnung so beschränken, aber auf jeden Fall ist das ein Teil von mir, den ich auch gerne annehme. Also.
Donc pour répondre à votre question initiale, je dirais que bon, c'est aussi un label qu'on vous colle dessus. Au début, bon, quand j'ai utilisé dans mes pièces des contes, des mythes, bah, il y avait aussi des vampires. Bon, on m'a dessiné comme auteur utilisant ces images-là. Mais plus tard, oui, justement, on a commencé à m'appeler un dramaturge de comédie, une écrivaine qui écrit des comédies. Mais c'est plutôt un label qu'on vous colle dessus de l'extérieur.
Aber es geht natürlich schon, also in allen meinen Stücken mehr oder weniger arbeite ich mit der Technik der Überhöhung und es geht immer auch um das Absurde und das spielt ja auch in der Komödie mit rein. Also Komödie ist natürlich ein weites Feld, es gibt ja verschiedene Formen von Komödien und auch, also manchmal benutze ich auch Elemente der Boulevardkomödie, ohne dass meine Stücke wirklich Boulevardkomödien sind. Also das ist, ja, so ein Grenz.
Il est vrai, par contre, je travaille avec l'absurdité, avec l'absurde, avec le persiflage, donc des motifs, des choses qu'on trouve souvent dans les comédies. D'ailleurs aussi dans les comédies de boulevard, les vaudevilles, je ne sais pas si on peut traduire comme ça, Nicole, c'est toi la spécialiste qui me dirait que si on peut, dans les deux pays, utiliser les mêmes termes ensuite, on parlera dans un instant justement de tout cela, de comédie. Voilà, c'est ça, tout à fait. Je travaille avec des motifs, avec des thématiques et des instruments qu'on utilise souvent effectivement dans les comédies. Est-ce que quand on parle de comédie, de vaudeville en France, en Allemagne, boulevard, théâtre, c'est la même chose? On peut comprendre la même chose ou c'est différent?
Mais à vrai dire, je pense quand même qu'il y a une très grande différence par rapport aux traditions déjà, mais quand vous avez dit que vous ne savez pas combien de pièces vous avez écrites, j'ai brusquement pensé à Labiche qui lui ne sais pas très bien combien de pièces il a écrit. Bon, ce n'est pas 22, c'est entre, je pense, 250 et 300 pièces. Donc, mais comme vous avez aussi expliqué, parfois, justement, aussi, pas des vraies pièces, mais des pièces d'un acte. Et évidemment, on a fait, en comparaison, justement, le théâtre français avec le théâtre allemand, qui à la fois, c'est très, très difficile à comparer, mais on peut quand même dire qu'il y avait toujours cette différence. C'est pas, parce que là, par exemple, on va parler sur votre pièce Villa Dolorosa, et donc qui est une adaptation de, on peut dire, de Tchekhov, Les Trois Sœurs. Et donc, alors, vous avez pris cette comédie et le transformé vraiment dans une pièce, on peut presque dire, peut-être même d'une certaine manière boulevardesque, mais en tout cas très comique. Et on voit déjà la même chose si on compare, par exemple, Amphitryon de Molière avec Amphitryon de Kleist. Alors là, c'est vraiment un exemple classique qui était traité souvent justement pour montrer la grande différence entre le théâtre français et le théâtre allemand. Donc pour moi, c'est pas forcément une différence profonde, mais je pense que si vous connaissez les deux pièces de Molière, donc alors on a parlé de la frivolité, frivole Franzosen, tiefgründige Deutsche. Alors c'est donc c'était vraiment ça. Donc au milieu de la pièce de Molière, il y a justement cette ménage à trois ou quatre, comme on veut voir les choses. Et chez Kleist, bien évidemment, c'est la tragédie de ne pas reconnaître celui qu'on croit aimer. Alors, c'est donc tout à fait un autre concept. Et je pense que là, peut-être on peut en parler tout à l'heure, je vois un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que là, on est dans le théâtre russe et le théâtre allemand, et évidemment aussi avec une certaine idée de la modernité, bien entendu, mais ça serait peut-être pas si intéressant de comparer les deux cas.
Ja, obwohl ich jetzt gerade speziell bei Tschechows drei Schwestern und meinem meiner Aneignung Villa Dolorosa ganz anderer Meinung bin. Also ich halte ja die drei Schwestern eher auch für eine Tragikomödie. Und wenn man sich den Tschechow genau anguckt, ist der auch ganz schön komisch. Und er ist, also das ist ja auch meine Auffassung von Humor, dass, also das ist eigentlich eine Binsenweisheit, dass da immer eine Portion Tragik da drunter liegt. Und das finde ich so gut. Boulevardesque oder mit welchen boulevardesken Mitteln ich auch da arbeite, finde ich bei meinem Stück eigentlich auch. Also ja, deswegen finde ich das, also mit diesem Boulevardesque, das ist ja auch in Deutschland ein ziemliches Schimpfwort, weil es, glaube ich, aber auch so ein Theater vor Augen hat, was so nur noch Klischees reproduziert und wo man nur hingeht, um sich nur zu amüsieren, was gar keinerlei Reflexionstiefe mehr hat und also so, ich weiß nicht, mir fällt jetzt gar nichts ein, was das sein könnte, fällt dir ein Stück ein?
Rebecca dit qu'elle n'est pas forcément d'accord avec l'analyse de Nicole, que déjà dans la pièce de Tchekhov et dans sa pièce, elle découvre une sorte de comédie tragique, puisqu'il y a des couches de tragique et de comique dans toutes ces pièces-là. Et bien sûr, si elle travaille avec les éléments du boulevard, comme on dit, elle veut éviter, bien entendu, le boulevard en soi. Parce que quand on parle d'une pièce de théâtre, de boulevard en Allemagne, ça veut dire que c'est quelque chose qui est complètement trivial, qui n'a pas de profondeur, qui ne cherche pas de profondeur. Donc des pièces qu'on trouve en partie aussi en France dans le théâtre privé.
Mais je trouve quand même que les choses ne sont pas si simples que ça, parce que peut-être on s'est un petit peu mal compris, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, que évidemment Tchekhov c'est une tragédie comique, mais je pense que justement que par exemple Tchekhov, il était toujours sentimentalisé, si on peut le dire, c'est-à-dire par les metteurs en scène. C'est-à-dire les metteurs en scène ont toujours mis avant alors les aspects tragiques. Et lui-même, il a toujours protesté, il a dit non, mais c'est aussi comique. Et donc, c'était, et là, j'ai tout simplement voulu dire que chez vous, donc les, comme vous avez, comment dire, en tout cas, par exemple, si je ne me trompe pas, il n'y a personne qui va mourir, par exemple, dans la pièce, donc les choses restent quand même, je dirais, plus sur le niveau de la conversation, la tragédie. donc, personnellement, je trouve que vous avez quand même renforcé quelques éléments par exemple, les répétitions. Quand même, il y a une forme von Verdichtung und Zuspitzung. Hein, c'est quand même
de densification, oui.
Que je trouve d'ailleurs très intéressant et très bien, mais qui donne quand même une autre couleur à cette pièce que justement la pièce de Tchekhov qui, elle, la pièce, a toujours dû aussi se battre contre cet aspect tragique, hein, que c'était toujours mis en avant. Et probablement aussi parce que la tragédie est quand même plus prestigieux, on va dire, que la comédie.
Ja, habe ich jetzt einmal den Mathieu. Ja, donc j'aimerais bien m'adresser aussi à Mathieu. Vous êtes directeur de théâtre, du théâtre de La Poche à Genève. Vous avez programmé Rebecca, mais vous êtes aussi vous-même auteur. Vous avez écrit un certain nombre de pièces de théâtre que vous avez montées, entre autres aussi au théâtre de Gennevilliers à Paris. Mais vous êtes aussi traducteur, donc vous venez de traduire donc la pièce Extase et Quotidien. Donc les deux pièces Villa Dolorosa, donc traduites par Leila Claire Rabhi et Frank Weigand, et Extase et Quotidien, traduit par vos soins, ont été publiés aux Actes Sud. Donc voilà, ici, si vous voulez regarder tout à l'heure. Quelle a été pour vous la raison majeure de vous intéresser à Rebecca Krieger? Vous rappelez que vous avez passé 10 ans, je pense, à Berlin, donc vous avez une bonne connaissance de l'Allemagne. Est-ce que c'était également les aspects comiques qui vous ont attiré ou c'est d'autres aspects? Maintenant, on va revenir au comique tout à l'heure, mais bon.
C'est une chose très bête, c'est que je connais avec. On a fait l'école ensemble, Vivan auf der Schule zusammen, und da kennen wir uns. Voilà, on a fait les mêmes études à Berlin d'auteur dramatique, et c'est pour ça que je la connaissais. J'ai traduit, je pense que je suis le premier à avoir traduit une de ses pièces en français, c'est une princesse et Nicoletta. J'ai traduit une de ses toutes premières pièces, justement une de ses pièces. De fables, contes dont elle parlait tout à l'heure, qui avait peut-être effectivement qui était la première tendance de son écriture. Et puis en fait, c'est par un hasard de circonstance que qu'on m'a demandé de traduire Extase et Quotidien, parce qu'il y avait une urgence de traduction, il y avait un festival qui en avait besoin. Et comme je suis assez connu pour être quelqu'un qui traduit rapidement, qui connaissait déjà Rebecca, qui connaissait son travail, voilà, j'étais aussi plus disponible que Frank Weigand, Leila ou d'autres personnes qui auraient pu la traduire. Voilà, comme moi, là, je traduis plus vite que d'autres.
Mais vous avez fait monter les deux pièces de... Alors, c'est vous, non ?
Dans un second temps, au Poche, le théâtre que je dirige, on a un comité de lecture à qui j'ai donc proposé ces deux textes-là. Ils ont été retenus par le comité de lecture. Et du coup, on a décidé de les faire toutes les deux. On a aussi essayé de profiter de l'opportunité d'avoir deux pièces allemandes pour essayer de les montrer de la même manière qu'on les montrerait en Allemagne, c'est-à-dire qu'on a fait un... On a fait un ensemble théâtre, on a fait un théâtre de répertoire pendant une période courte où on a joué ces deux pièces-là en alternance avec les mêmes acteurs et le même metteur en scène et le même décor. Mm-hmm. Voilà. Le même décor, ce n'est pas forcément le cas dans un théâtre en Allemagne parce qu'on a beaucoup de moyens. Mm-hmm. Donc on a un peu moins de moyens et pas de tribune. On a fait avec le même décor ces deux pièces-là. Et du coup, pour le public, c'était extrêmement amusant et intéressant de voir les mêmes acteurs qui, dans une pièce, une actrice jouait Irina et dans l'autre pièce, elle jouait Katia, qui sont des personnages qui sont comme ça apparemment très très différents, mais par le fait d'être liés par la même actrice, ça créait des liens qui n'étaient pas forcément existants entre les deux pièces d'entrée de jeu. Et juste pour l'expérience que nous, on en a fait, ça a été le spectacle d'ouverture de ma direction au théâtre. Ça a été le gros succès de la saison parce que ces deux comédies extrêmement, je ne vais pas dire légères, parce que c'est absolument pas le cas, c'est le contraire, mais deux comédies extrêmement entraînantes d'une certaine manière. Il y a un effet de reconnaissance extrêmement rapide Est-ce que ça parle de gens qui ont les mêmes problèmes que nous, qui ont des parents 68 ans absolument anti-autoritaires? Enfin, il y a vraiment des tas de points de reconnaissance. Et Villa Dolorosa, ça a été pour beaucoup de spectateurs une tragédie, quoi. Mais vraiment, ils l'ont pris très, 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 très mal. Enfin, beaucoup de tous les gens qui ont entre 28 et 35 ans l'ont vraiment pris très douloureusement. Et sont sortis tout en ayant ri, ils rient jusqu'à la moitié du deuxième acte, et puis jusqu'à la fin du troisième acte, ils ont envie de plus parler de leur anniversaire pendant des années. C'est vraiment... j'avais un ami qui fêtait son 30e anniversaire juste à ce moment-là, il n'était vraiment pas très heureux d'avoir vu ce spectacle. Ce soir. C'est un spectacle où, comme dans Les Trois Sœurs, on fête trois fois l'anniversaire d'Irina, et Irina remet... extrêmement en question son existence, le sens de la vie, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle fait. Enfin, je trouve que ça, c'était, en tout cas sur la génération des trentenaires, ça a vraiment bien marché. Et j'avoue que c'était un spectacle extrêmement mélancolique, très drôle, mais on a un rire qui devient de plus en plus jaune au fur et à mesure de la pièce, jusqu'à vraiment devenir assez sarcastique sur soi-même. Ça, c'est vraiment la force de la pièce, qui, je crois, est l'endroit où, dans la transposition... dans la transposition qu'en a fait Rebecca, elle a vraiment renforcé les deux aspects de Tchekhov en la rendant beaucoup plus actuelle. Je pense que c'est quand même très difficile de saisir les trois sœurs et cette ambition d'aller à Moscou et d'épouser des générales et des médecins. Mm-hmm. Je crois que concrètement, c'est un peu difficile à vraiment saisir ce que ça veut dire. Elle en a fait une transposition qui la rend extrêmement contemporaine. Donc elle renforce le comique tout en renforçant la mélancolie la mélancolie sous-jacente qu'il y avait dans la pièce de Tchekhov. Ouais.
Est-ce qu'on peut brièvement résumer l'histoire, c'est possible? Comme un kurz, das da drin.
C'est il y a trois actes, c'est trois anniversaires d'Irina. Mm-hmm. Irina a deux sœurs, Masha et
Olga.
Voilà. Donc Irina, la sœur du milieu. Elle a encore un grand frère qui s'appelle Andrei. Et puis ses trois sœurs et ce frère vivent dans une maison à l'abandon, enfin qui de plus en plus décatie parce qu'il n'y a plus les moyens pour la rénover, qu'ils ont hérité de leurs parents qui sont morts dans un accident de voiture. Et chaque année, Irina se plaint de faire des études qui ne sont pas intéressantes. Chaque année, la sœur Masha se plaint d'être mariée avec un type pas du tout intéressant. Et chaque année, Olga se plaint d'être enseignante et de travailler qu'avec des collègues ennuyeux. Et qu'ils sont tous tellement nuls et ennuyeux qu'elle va forcément se retrouver directrice de l'école. Évidemment, c'est ce qui arrive à la fin de la troisième année. Quoi. Et Irina change chaque fois de carrière d'études. Elle fait étudie la philo, ensuite elle étudie la microbiologie. Et c'est chaque fois une grande révélation. Il y a Georg, le personnage, évidemment il y a un personnage extérieur qui arrive, qui est Georg, qui est lui aussi mal marié avec une femme qui tente tout le temps de se suicider. Chaque fois qu'il sort de la maison, elle se suicide et il quitte l'anniversaire pour aller rejoindre sa femme suicidée. Et la nouvelle copine d'Andrei,
Janine.
Et Andrei a rencontré une jeune femme qui s'appelle Janine, avec qui on apprend dans le premier acte qu'elle est enceinte du premier enfant, dans le deuxième acte on apprend qu'elle est enceinte du deuxième enfant, et dans le troisième acte on suppose que ça va aussi, il va y avoir encore un enfant, donc à chaque acte, une année plus tard, il y a un nouvel enfant qui pleure dans la pièce d'à côté. Mm-hmm. C'est vraiment, vraiment assez délirant, mais très drôle, mais vraiment au fur et à mesure, sa drôlerie disparaît au profit, ou plutôt au contraire, on rit de plus en plus jaune, et c'est ça qui rendait cette pièce vraiment très forte. Ça durait très long, c'est un spectacle qui durait qu'à 2h45, et j'ai hérité d'un public d'un certain âge, on avait très peur que la salle se vide au cours de la représentation, puis la pièce est tellement entraînante qu'en 2h40 sont passées sans qu'on s'en rende compte, et c'était vraiment des soirées... Comme on les jouait en alternance, donc on faisait des 2h40 de Villa Dolorosa, une pause d'une heure, puis après on faisait encore 2h15 de Extase et Quotidien. Et les gens restaient parce qu'il y a une vraie... il se passait vraiment quelque chose de... Déjà, aller voir une comédie allemande, on a beaucoup joué sur le fait que personne ne s'attend d'aller voir des comédies allemandes. C'était la ligne publicitaire, c'était venir voir des comédies allemandes.
quelque chose qui n'existe pas. Voilà.
Et ça a extrêmement bien marché. Ouais. C'est parti en tout. Enfin, ça a joué encore à Vidi à Lausanne et la salle, le spectacle était complet avant même le début des représentations. C'est vraiment, c'est une pièce vraiment géniale.
On a blagué, on a dit bon, il n'y a pas de comédie allemande, est-ce vrai? Est-ce que comment ça, comme ça, c'est, ben, disons là, il y en a, mais bon, dans le passé, est-ce qu'il y avait d'autres pièces comiques, je dirais, allemandes, ont été reçues en France, ont eu peut-être un certain succès? Est-ce que tu le sais, Nicole?
Non, mais c'est justement ce que vous venez de dire. Alors, c'est absolument pas la comédie, pour, c'est pas l'élément pour lequel le théâtre allemand est reconnu en France. C'est plutôt justement le théâtre politique, c'est le théâtre de Bertolt Brecht et les auteurs qui ont suivi. Donc, c'est ça qui à la fois. Et à la limite, si on veut. On peut retrouver ça peut-être chez Thomas Bernhardt. Moi, j'ai pensé un petit peu aussi à ce, en lisant les pièces, qu'il y a quand même aussi une certaine comique qui me semble très proche à cette notion noire de Bernhardt et qui travaille évidemment autrement que vous aussi, avec beaucoup avec la répétition, par exemple. Et qui est justement aussi un élément de la comédie. Et personnellement, je ne vois pas vraiment d'auteur très connu. Bon, on peut, bien entendu, on peut aussi parler d'Elfriede Jelinek. Mais il faut savoir que Elfriede Jelinek, jusqu'à présent, était quand même souvent présenté dans les mises en scène des maîtres en scène allemands, mais pas souvent joué quand même en France par des maîtres en scène, ou bien des petites pièces qui sont pas bon, qui sont moins drôles en tout cas que les grandes œuvres qu'elle a écrites. Et donc moi non, je vois pas vraiment une concurrence pour vous
Après, c'est aussi le problème des pièces qui sont traduites ou pas.
Oui, bien sûr.
Mais il y a des pièces traduites, par exemple, Marius von Mayenburg, sauf peut-être les toutes premières pièces, mais là, en ce moment, il est plutôt dans une vague comédiante.
Mais lui, par exemple, reconnu en France aussi pour un théâtre plutôt politique ou psychologique, parfois. Mais ce que je voulais dire, c'est pas sur la réalité, mais sur le stéréotype. Et je voulais juste dire que, justement, en comparaison, le théâtre allemand avec le théâtre français, on va trouver plus d'auteurs, on va dire, comiques en France. Par exemple, aussi quelqu'un comme Yasmina Reza. Et là, par exemple, ce n'est pas non plus facile, parce qu'il faut dire qu'en France, on a quand même une réception de Yasmina Reza d'autres qu'en Allemagne, parce qu'en France, c'est toujours attaché, malgré Luc Bondy, au théâtre privé. Par contre, la première grande mise en scène de Reza en Allemagne, c'était à la Schaubühne, donc vraiment pas une scène qui était reconnue pour, malgré que Peter Stein a monté déjà en 69 ou 70 une pièce de La Biche, qui était vraiment, alors là, c'était une révolution, hein, de monter une pièce de La Biche à la Schaubühne. Mais ce que je voulais dire, c'est justement les stéréotypes France-Allemagne, alors on dirait plutôt comédie côté la France, mais la Russie et l'Allemagne, alors là, on est quand même tenté de dire peut-être c'est en Allemagne quand même encore un petit peu plus drôle qu'en Russie. C'est pour cela que je dis aussi pour la pièce, hein, qu'on a une certaine tendance Tchekhov. Alors non, mais c'est donc, je dirais, là, on est vraiment. On parle sur les stéréotypes et je pense que, évidemment, on pense que les Russes sont beaucoup plus mélancoliques et encore tragiques que les Allemands, et que finalement c'est même très difficile de comprendre la tragédie, la vraie tragédie de la pièce de Tchekhov.
Wie ist das denn, ich wollte nur mal kurz dazwischen fragen, wie ist es denn so mit Leuten wie René Polesch und Felicia Zeller? Sind die in Frankreich
Quand il s'agit des gens comme René Polesch ou Felicia Zeller, est-ce qu'ils sont traduits? Est-ce qu'ils sont connus en France?
Très bonne question, Felicia Zeller. J'ai essayé, je pense, 3 ou 4 fois de proposer une traduction d'une pièce de Zeller. C'était toujours refusé.
Ist
trop compliqué?
Ich glaube, es gibt schon, also wenn ich mich so umgucke, dann gibt es wirklich so unter den deutschen Dramatikern wenige, von denen man so sagen könnte, das sind so reine Komödienschreiber. Aber ich finde, also gerade was Felicia Zeller macht oder René Polis ist sehr, sehr unterschiedlich, aber ist ja auch eine Form von, also es ist ein großer komödiantischer Anteil in der Art des Schreibens. Aber da geht es eben um so eine Sprachüberdrehung und so eine, ja, so Sprachkunstwerke, die aber auch sehr, sehr komisch sind. Und
quand je regarde autour de moi, je constate qu'il y a très peu d'auteurs qui sont vraiment des auteurs purement écrivant des comédies. Mais bon, il y en a comme Felicia Zeller et René Polish qui ont quand même une tendance comique, une grande tendance comique de par la langue. Ils sont très, très différents d'ailleurs. Mais bon, je vois ça.
Mais il y a aussi un problème de traduction. On voit ça très bien aussi avec Elfriede Jelinek parce que c'est une comique qui est quand même extrêmement difficile à je pense, produire dans une autre langue. Et c'est pour vraiment réécrire la pièce. Bon, évidemment, là, elle est connue, etc., mais elle n'est pas beaucoup jouée non plus. Et les autres auteurs, je suis tout à fait d'accord, hein. Il y a plusieurs auteurs aussi, c'est vrai, mais qui ne sont pas très connus en France.
Pour sauver un tout petit peu l'honneur de la comédie allemande, ou germanophone plutôt, peut-être quelques noms, Karl Valentin, très peu joué, mais un tout petit peu.
Il était déjà assez tôt connu en France grâce à Jean Jordeuil, qui a monté plusieurs pièces, déjà je pense dans les années 70, et qui a traduit
Nestroy, qui n'est pas joué du tout, si je ne me trompe pas, en France, ou très peu. C'est un auteur superbe du 19e siècle, un Autrichien. Et les Autrichiens, mais bon, comptons les Autrichiens parmi les auteurs germanophones quand même. Et quelqu'un qu'on a tendance à oublier, qui à mon avis est un très grand auteur, c'est Werner Schwab. Donc qui a été joué énormément
pendant un certain moment,
et c'est un auteur qui est mort, alcoolique, qui est mort assez jeune, mais c'est un très très grand auteur.
Alors on a une certaine tendance à dire, bon, les Autrichiens...
Die Österreicher haben schon viele interessante Dramatiker vorgebracht.
Oui, les Autrichiens ont eu beaucoup de dramaturges très intéressants, effectivement.
Ich weiß noch, als ich anfing zu schreiben, gab es eine absolute Schwab-Mania. Also alle haben Schwab gespielt, alle wollten schreiben wie Schwab. Also das,
oui, je me rappelle quand j'ai commencé à écrire, tout le monde était complètement fan de Werner Schwab. Tout le monde voulait écrire comme il écrivait. Wann war das denn? 2000?
Naja, das war so 1997, 98.
Mais les Autrichiens ont une autre tradition aussi avec le Wiener Volkstheater. C'était donc déjà avant une très grande tradition et vraiment très particulière aussi.
Absolument. Sie haben eine Stelle ausgesucht, die Sie uns vorlesen wollen, wenn ich das richtig erinnere.
Ja.
Denn wir wollen ja auch mal was hören.
Ja.
Ja, und zwar aus der Villa Dolorosa.
Also das können wir auch mal an den Anfang nehmen. Also ich habe jetzt zwei Stellen ausgewählt, einmal aus Alltag und Ekstase und einmal aus Villa Dolorosa. Zwei sehr unterschiedliche Stellen, aber weil wir jetzt so viel über Villa Dolorosa gesprochen haben, können wir ja damit anfangen.
Und reden dann noch was und gehen dann zu dem zweiten.
Es ist eine Stelle wieder so eine, die es sehr viel in Villa Dolorosa gibt. Also diese, diese Protagonisten sind zu Hause in ihrer Villa und exponieren sich durch ein über alles mögliche Sprechen. Also es wird wahnsinnig viel gesprochen in dem Stück. Also das ist so diese, das Konzept Sprechen statt Leben oder Sprechen statt Handeln. Und das wird hier auch thematisiert.
Donc c'est un passage qu'on trouve souvent, des passages comme ça dans la pièce. Ils sont dans leur villa et ils ne font que parler. C'est un tout petit peu l'idée que le parler remplace la vie, remplace vivre. On parle beaucoup dans cette pièce-là et on retrouve beaucoup de passages comme ça.
Und das sind so, also das ist eine Stelle, wo alle so ein bisschen aneinander vorbeireden. Also jeder breitet sich so aus in seinem kleinen Redebeitrag. Also es sind wie so kleine abgeschlossene Geschichten, die sie sich so erzählen. Also es gibt eine Stelle, die Schwester Irina, ihre Schwester Mascha beschuldigt sie würde zu wenig tun und naja, dann wenigstens, dann bleib halt zu Hause, dann liest doch wenigstens was. Und dann sagt
Irina accuse Mascha de ne pas faire assez et elle dit, bah reste au moins à la maison et lis quelque chose.
Mascha, Lesen? Ich will leben. Lesen kann ich immer noch, wenn ich zu alt zum Leben bin. Das Leben hört auf, sobald man ein Buch aufgeklappt hat und setzt dann nahtlos wieder ein, wenn es zugeklappt ist. Lesende sind Scheintote. Wer liest, lebt nicht. Wer lebt, liest nicht. Nur Tote lesen. Lebende, die lesen, tun nur so, als ob sie läsen oder lebten. Lesen ersetzt Leben. Lesen und Leben ist wie Atmen und Luft anhalten. Ein guter Leser ist ein schlechter Leber und andersrum.
Irina stöhnt.
Und Mascha sagt dann, ja, du machst doch auch nichts, den ganzen Tag nichts. Irina, ich denke nach, du denkst ja nichts. Und was denkst du denn so Tolles? Gar nichts. Irina, doch, heute Morgen habe ich zum Beispiel gedacht, der Mensch ist kein Affe. Gut, vielleicht sind alle um mich herum Affen, aber ich nicht. Gut, vielleicht bin auch ich ein Affe, aber ich bin der dysfunktionale Sonderaffe, der sich aus allem raushalten kann. Aus der albernen Schlacht um Status, Sexiness und Ansehen. Ich harre aus, bis ich hier rauskomme und begebe mich an einen Ort, wo alle so denken wie ich. Wir gründen eine Subgruppe aus Sonderaffen, in der sich bald eine Hierarchie einschleicht. Die Sonderaffen der Sonderaffen halten es nicht aus, begehen Fahnenflucht und gründen die Sub-Subgruppe der Sonderaffen. Wieder Hierarchie. Die Sonderbarsten der Sonderaffen sondern sich aus. Wohin? Das ist die Frage.
Georg, gestern sag ich in der Mittagspause zu Herbert Knolp, was mein Kollege ist. Herbert, meinst du nicht, dass Schopenhauer recht hatte mit seiner Annahme, dass die menschlichen Glückszustände Baumgruppen gleichen, die von Ferne hübsch aussehen, man aber, sobald man in sie reinläuft, bloß doof dasteht zwischen zwei doofen Bäumen? Und er sah mich an, als hätte ich ihm einen Kindsmord gebeichtet. Was du immer alles denkst, sagte er, stieß die Gabel in sein Steak und erzählte mir einen Witz. Treffen sich zwei Nutten im All und so weiter.
Mascha, versprecht mir, dass ihr mich, bevor ich anfange, Klorollenfutterale zu häkeln, bevor ich anfange, Seidenmalereikurse zu belegen, bevor ich anfange, Reizwäsche bei Beate Use zu bestellen, bevor ich anfange, Socken zu bügeln, bevor ich anfange, Marmelade zu kochen, bevor ich anfange, fremde Kinder aus dem Vorgartenbeet zu verscheuchen, bevor ich anfange, mich im eingetragenen Verein der Lehrergattinnen ehrenamtlich für die Dekoration der Schulaula bei Jahresfesten einzusetzen, erschießt.
Georg, letzten Sonntag war mir so öde, dass ich ein paar morphiumhaltige Schlaftabletten von meiner Frau eingeschmissen habe. Die sind für den Notfall, den absoluten Notfall. Und ich dachte mir, das ist jetzt ein Notfall, ein Fall von Not. Der Fall war Not. Ich in Not vor lauter Leere. Leere Deluxe. Da habe ich 500 Milligramm genommen. Man darf nur 50, egal. Das hat sich wie auf Watte angefühlt und ich war so glücklich, so frei von Wunsch und Ambition, dass es erst recht öde war. Öde, aber irgendwie geil. Und trotzdem sinnlos und öde, blöde, weil öde.
Mascha, aufstehen, sich waschen, leben, sich waschen, schlafen, aufstehen, sich waschen, leben, sich waschen, schlafen, aufstehen, sich waschen, leben, sich waschen, schlafen. Was für ein Elend, ich glaube, ich bringe mich um. Schreit das mal.
Das hat man manchmal in der Kritik, da gibt es so einen schönen Artikel über eine Diskussion, wo sich alle gestritten haben nach einem ihrer Stücke.
Ah, ja.
Das hat man ihnen so manchmal vorgeworfen, wie das steht alles so nebeneinander und deshalb entfaltet das keine Tiefe, wirkt das nicht in die Tiefe. Wie, ist das so etwas, was man häufig auch so dem, wie soll man sagen, diesem dekonstruierten Theater vorwirft. Ist das etwas, was Sie erreicht, das Buch? Donc j'ai dit, j'ai trouvé un bel article où on parle d'une dispute après une représentation d'une de vos pièces où le public discute avec tout le monde. Il y a ceux qui le trouvent très bien, d'autres qui détestent. Et des fois, on vous reproche, comme on dit, une sorte de manque de profondeur de par le fait que ce débat, ces dialogues, sont à côté l'un de l'autre, mais sans développer une vraie profondeur d'âme ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui vous berühre, dans le doppel sens du mot, also dass sie sagt, wenn man sie so kritisiert, dass sie wollen was anderes, oder wie stehen sie dazu?
Also diese Kritik, muss ich mal überlegen, ob ich die überhaupt mitbekommen habe. Also ich habe diese, es gibt so oft so eine bestimmte Kritik, die in diese Richtung geht, Klischee und eben deswegen keine Tiefe, weil okay. Klischee und so weiter. Und diese Kritik also sie berührt mich nicht oder sie ärgert mich unglaublich und ich sag gleich mal warum, weil also ich fühle mich da absolut missverstanden und zwar das Komödie-Genre absolut missverstanden, weil es geht hier nicht um Klischees, es geht um Prototypen und es geht, also es ist einfach das A und O der Komödienlehre, dass es in der Tragödie geht es um individuelle Schicksale und in der Komödie geht es um das Allgemeine und um die Überhöhung und die Zuspitzung und das, was mir als Klischee vorgeworfen wird, ist einfach eine typische Komödienfigur und das berührt mich dann deswegen nicht, weil diese Kritik irgendwie so dämlich ist, meiner Meinung nach, dass ich mich gar nicht berühren kann, aber sie ärgert mich, weil ich einfach mich in dem Genre missverstanden fühle. Wenn jemand mein Stück aus dem Stück heraus kritisiert, kann ich das viel besser verstehen, weil natürlich geht mir ja auch so, ich sitze auch oft im Theater und denke, was soll, das interessiert mich überhaupt nicht. Also ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn jemand mit meinen Sachen was nichts anfangen kann, aber bitte aus den richtigen Gründen. und generell, also das ganze Genre Komödie dann misszuverstehen, das finde ich dann, aber das ist auch, denke ich, ein typisch deutsches Problem. Entschuldigung.
Kein Problem. Donc, il faut peut-être distinguer deux choses. Quand on me reproche de travailler avec des clichés, avec des stéréotypes, ça ne me touche pas vraiment, mais ça me fâche. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ne comprennent pas le sens de la comédie, du genre de la comédie, parce que la tragédie travaille avec des destins individuels, mais la comédie travaille avec des prototypes. Donc il ne s'agit pas de dessiner trop des individus. Donc c'est quelque chose qui me fâche effectivement, et je suis tout à fait disposé à accepter une critique ou à débattre sur mes pièces quand on part de la pièce même, de l'intérieur de la pièce. Mais cette critique générale me fâche beaucoup. Mais j'ai l'impression, on a convaincu si vous êtes anfangsheureux, que c'est une question aussi de la réception et de la perception de la comédie en Allemagne en général. Kann man also sagen, ja, in Deutschland gibt es immer noch die Tendenz, Komödien für oberflächlicher zu halten als sozusagen Tragödien?
Ja, nicht nur die Tendenz, ist ganz stark so. Also ja. Ich habe mir so eingefallen heute so beim Anreisen, dieser Satz, den man sehr, sehr oft hört, wenn das deutsche Publikum aus dem Theater kommt, sagt, ja, das hat ja nicht wehgetan, oder? Und das meinen sie als Negativum. Mhm. Also es gibt die Vorstellung in Deutschland, dass das Theater möglichst schmerzhaft, zäh, also dass Arbeit sein muss, dass es irgendwie, ja, also auf keinen Fall lustvoll oder vergnüglich. Das finde ich ist ein ganz großes Problem.
Donc à cette question-là, si en Allemagne on dit que la comédie est encore plus superficielle que la tragédie, je dois dire oui, ce n'est pas seulement une tendance, mais c'est un fait que ce soit ainsi. Parce que souvent les gens, quand ils quittent le théâtre en Allemagne, ils disent, je dirais négativement, ça n'a pas fait mal. Donc dans le sens, le théâtre doit faire mal, ça doit être du travail. Et voilà, c'est peut-être quelque chose qui est assez typique pour l'Allemagne. Aber wenn ich da Nicole mal fragen darf, donc pour te poser une question, est-ce que ça ne coïncide pas avec une idée de la Bildung qu'on se fait en Allemagne, qui est peut-être différente de ce qu'on pense en France?
Hein? Immer noch dieses grauenvolle Vorstellung von Theater als moralische Anstalt und Belehrungsinstitut, also das finde ich ganz, ganz schrecklich. Aber es ist natürlich noch so, die Tradition ist noch ganz tief drin, deswegen gibt es wahrscheinlich auch so viel zähes, anstrengendes, langweiliges politisches Theater. Also nichts, also das, da muss man, also nichts gegen politisches Theater. Ich finde auch, ein Stück soll auf keinen Fall zu gefällig sein. Und das, also was da wohl mit Wehtun gemeint ist, also ich teilweise finde ich das, also bin ich da auch einverstanden, wenn es darum geht, auch Verstörung zu sehen und zu provozieren und über Grenzen hinauszugehen. Aber für mich ist immer noch Theater auch ein lustvolles Spektakel. Und dieses hedonistische, dieser hedonistische Aspekt, der fehlt mir ein bisschen im, oder was heißt ein bisschen, zu großen Teilen auch in der deutschen Theaterauffassung. Mhm.